demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Elle dit, je ne demande pas pardon. Ça, c'est être un être que la Torah. C'est ça le vrai but de la vie. Combien c'est grand? Mission numéro 1, sauver le peuple juif. Une Shoah physique, une Shoah spirituelle. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Prosper Mesoud Ben Rachel. On est aujourd'hui le premier qui se lève, il semblerait que c'est l'anniversaire de son décès. Et pour l'alia rapide de Geneviève Rachel Bat Juliette Semha Bezrat Hashem, ou Sema. Ok, alors on a deux questions ici qui se rejoignent un peu. Gil.
Comment on sait quel est notre chemin pour servir Dieu? Quel chemin est adapté pour nous pour servir Dieu?
Comment savoir quel chemin est adapté pour nous pour servir Hashem? Et Nissim.
Comment faire pour allier le travail et l'étude de la Torah?
Comment allier travail et étude de Torah? Alors ça se rejoint un peu dans la mesure où les deux parlent maintenant de comment choisir le chemin de sa vie. Il faut savoir que l'essentiel de la vie, c'est pas sa profession. Contrairement à ce que dit le monde occidental, qui pense à l'argent, 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 l'argent et l'argent, et crever après. Nous, on sait qu'on est ici pour un passage très court qui va nous amener à un monde qui est infini. Il faut préparer ce monde infini. Et l'essentiel, même pas l'essentiel, la seule chose qui compte dans le monde à venir, c'est Torah ou Mitzvot. La Torah qu'on a appris, les Mitzvot qu'on a pratiquées. Donc c'est dans cela qu'il faut mettre l'accent majeur de notre vie et comprendre que le travail et l'argent, en fait, c'est une malédiction. Initialement, le premier homme, il est écrit au paradis, il ne travaillait pas. Les anges lui donnaient, pressaient des raisins pour faire du bon vin et pas du jus de raisin. C'était du Beaujolais Margaux 1934, d'accord, au moins, d'accord, les bouteilles à 20 000 euros. Et les anges lui faisaient des grillades, bien meilleures que ce qui se fait dans les meilleurs restaurants français. Tout allait bien. C'est marqué qu'il devait quand même servir, Dieu lui a dit, ce champ-là, ce jardin d'Éden, tu devras les ovda, le servir et le garder. Alors, c'est pas que le premier homme allait faire de l'agriculture, d'accord, s'occuper des arbres. Il s'agisserait, l'on dit, les Oda, c'est servir, c'est loi positive, 248 lois positives, le Shomra, 365 lois négatives. Garder, c'est se garder de faire des choses interdites. Il y avait aussi les Mitzvot dans le Gan Eden. Il a péché. Il a été maudit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Et ça, c'est une malédiction qui touche toute l'humanité, l'obligation d'aller travailler. Mais, ça n'en fait surtout pas le but de la vie. Or, dans le monde occidental, tu vas aller à l'école, et après tu vas faire un bac, maudit, et après tu vas faire encore des études, plus 4, plus 5, plus 7, plus 10, d'accord. Tout ça pour une seule chose, gagner de l'argent. D'abord, pas tous gagnent de l'argent. Il y a des gens qui sont... J'ai rencontré un type une fois ici, il m'a dit « Je quitte Israël. » J'ai fait un bac plus 10 d'études d'informatique. Je connais tout, surtout en informatique. Je ne trouve pas de travail. Il est parti. D'accord ? Ce n'est pas toujours qu'on réussit parce qu'on a fait des études. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, ça ne veut même pas écrire. Ils signent avec leur empreinte comme ça du pouce. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, d'accord ? Mais je veux dire, avoir de l'argent ou pas... Hein, ça ne dépend pas du travail. C'est connu que 30% des êtres humains travaillent dans le domaine dans lequel ils ont fait des études. Des fois, tu fais beaucoup d'études, il faut faire un autre travail qui n'a absolument rien à voir avec tes études. Pourquoi je dis tout ça? Parce que dans le monde occidental, on met un accent extrêmement fort sur gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Or, ce n'est pas le but, c'est une malédiction. Il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas, il faut. Mais il faut ce qu'il faut, pas plus. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être très très riche, ce n'est pas ça. Le critère de réussite de la vie. Très souvent, les riches sont malhonnêtes. Très souvent, ils trompent leurs femmes. Très souvent, leurs enfants vont voir les psys. Très souvent, ils n'ont pas de shalom bayit. D'accord ? À quoi ça sert ? Tu as de l'argent, on te fait beaucoup de kavod. Que tu sais qu'il est faux, fait des honneurs, mais tu sais très bien que c'est faux parce que tu as de l'argent, on fait des salamalek. Donc tu vis dans une bulle de mensonges terrible. Je répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'argent, mais le minimum nécessaire. Eze Achir nous dira Ben Meir, c'est qui le riche? À sa mère Bechelko, celui qui est au-dessus de ce qu'il a. Et quand tu as un milliardaire, qui a un copain qui a. Lui, il a un milliard, et son copain a 2 milliards, alors il est pauvre de 2 milliards, il est pauvre de 1 milliard, il lui manque 1 milliard pour être son, comme son copain. Donc il est beaucoup plus pauvre que moi. Mais Hachem, jamais il me manquera 1 milliard dans ma vie. Dans le monde orthodoxe, en Israël, quel programme d'études? Torah, Echol, aussi profane, jusqu'à l'âge de 12 ans. On t'apprend lire, écrire, un peu de maths, un peu de géographie, choses essentielles. Et après, Torah, 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 Torah. Il n'y a pas de bac en Torah. Jusqu'au mariage. Baruch HaShem, c'est une société qui fonctionne bien, qui a des résultats bien meilleurs que toutes les autres sociétés du monde. Si on prend les pourcentages de ratés qu'il y a dans le monde orthodoxe, c'est bien moindre que toutes les sociétés au monde. Combien de drogués dans le monde orthodoxe? Allez, t'en as 1, 2, 3% disons. Combien de femmes et de maris qui trompent leur conjoint? Allez, peut-être 2, 3%. Combien de... des voleurs, mais des grands voleurs, d'accord, des arnaqueurs? Il y en a. Il y en a, tu as beaucoup d'orthodoxes, des grandes barbes, des grands chapeaux, des grands arnaqueurs. Mais il y en a 2-3% grand maximum. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Shombite, d'accord, etc. Tous les registres que tu peux mettre, des choses qui sont importantes dans la vie, tu verras que dans le monde orthodoxe, c'est une réussite presque totale. Alors que dans le monde non religieux, dans toutes les sociétés, je ne parle pas peut-être des petits villages en Afrique où ils ne savent absolument pas encore même parler, peut-être que c'est différent. Mais sinon, combien de drogués tu as? Qui m'a dit aujourd'hui qu'à Marseille, ils ont mis sur la fac une grande... Quelqu'un m'a dit qu'il y a un grand téléphone pour avoir de la cam, d'accord, et que c'est une ville qui fonctionne avec la drogue, comme ça quelqu'un m'a dit dernièrement. Combien de drogués tu as? Combien de tromperies? Combien de divorces? Combien d'enfants malheureux? Combien d'arnaques? Combien de vols? Combien de... Quand je parlais à des élèves qui étaient des anciens vendeurs, alors j'aurais dit que la vente c'est permis, mais il faut être honnête. Alors ils m'ont dit, mais c'est plus de la vente. Si tu es honnête, tu ne peux plus faire de la vente. La vente, c'est dans l'esprit des gens, comment arnaquer son prochain. D'accord? C'est terrible, très souvent, très souvent. Donc, la Torah, pour répondre à ta question, elle met l'accent sur toi, et pas sur ta poche. Comment réussir? C'est pour ça que dans le monde orthodoxe, on va enseigner la Torah aux élèves jusqu'au mariage. Pas question d'apprendre un métier avant, pas question. Après, il y en a qui continuent à étudier, deviennent avraires, c'est leur femme qui travaille les premières années, parce qu'il y a plus grands besoins. Et c'est comme ça qu'ils sont formatés. Moi, j'ai un garçon et 7 filles. Si une de mes filles se serait mariée à quelqu'un qui travaille, mais elle serait suicidée. Parce que pour elle, le but de la vie, avoir un mari qui étudie la Torah, elle va travailler. Et c'est comme ça qu'elles font toutes jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça dans toutes. Il y en a qui ont un enfant, il y en a qui ont 8 enfants, Baruch HaShem, elle continue comme ça. Parce que le but, c'est que le mari puisse suivre la Torah. C'est pas toujours qu'on arrive à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font après le mariage? Ils vont étudier 1, 2, 3 ans au collège, et quand il y a des besoins et pas avant, à moins qu'aussi, il y en a qui ne sont pas faits pour étudier. Il y en a, ils n'arrivent pas, d'accord? Ils n'aiment pas étudier, ils ne sont pas scolaires, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ok, on dit qu'ils ont des cotines, qu'ils ont des épines dans le postérieur. Ça arrive, pas tout le monde est fait pour étudier. Dans ce cas-là, ils vont travailler, ils font un mi-temps, moitié. Mais l'accent reste toujours, le vrai but de ma vie, étude de Torah, me perfectionner pour être quelqu'un de bon, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, quelqu'un bon avec sa femme. Qui peut dire, j'ai jamais crié chez moi à la maison? Ça, c'est un but. Alors, selon Zalman Auerbach, c'est un des grands de la Torah, énorme, d'une gentillesse, il avait un sourire, c'était extraordinaire. Et bien, quand sa femme est décédée, quand quelqu'un est décédé, proche de la famille, on demande pardon. On demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Elle dit, je ne demande pas pardon à ta femme. Il dit, je n'ai jamais rien fait dans ma vie qui nécessite que je demande pardon à ma femme. Qui peut dire une chose pareille? Qui peut dire une chose pareille? Ça, c'est être un être tel que la Torah. C'est ça le vrai but de la vie. Combien c'est grand? Oui.
Mais la malédiction du travail,
C'est vrai.
Sur l'homme.
C'est vrai.
Et là, dans le monde orthodoxe,
c'est vrai.
Le monde. Que l'homme, il vit la belle vie.
Alors, ta question est tout à fait vraie. L'homme étudie, dans le monde orthodoxe, les hommes étudient la Torah, c'est la femme qui prend 3 malédictions. Et la femme, elle a eu une malédiction des femmes, d'accoucher avec douleur, la grossesse, s'occuper de l'éducation des enfants, plus encore la malédiction de faire de l'argent. La parole que l'homme, il est pépère, c'est pas pépère, il étudie jour et nuit, mais ok. Absolument vraie ta question. Simplement, il faut comprendre que, originellement, le peuple d'Israël devait vivre comme ça. Si tout le peuple d'Israël vit ainsi, avec Torah comme point essentiel, et travail comme point accessoire. Alors, la société était comme ça. Les gens travaillaient 2-3 heures le matin, ou plus tard, et après, ils allaient étudier la Torah. Et il y avait une protection sur le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël pratiquait la Torah. Mais aujourd'hui, tu as une assimilation, on peut dire, sans mentir, les gens n'aiment pas codifier les chiffres, pareil, c'est moins 80% facile d'assimilation. Le 20% qui reste, 80% qui ne pratiquent même pas Shabbat, qui ont un statut de non-juif, quelqu'un qui ne pratique pas Shabbat en public, un statut de non-juif à certains égards. Donc combien il nous reste maintenant? 4% du total. 4% du total qui sont très 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 légers, et tu prends un 10% ça fait un 0,4%, d'accord, qui vont tuer la Torah. Pourquoi? Parce qu'il faut contrebalancer la situation très malheureuse spirituelle du peuple d'Israël.
Il n'y a jamais eu autant d'étudiants en Torah.
C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau, contre lequel les ennemis d'Israël se sont beaucoup, beaucoup battus, les ennemis d'Israël, du peuple d'Israël lui-même, d'accord. Mais même si tu prends aujourd'hui, où il y a un beau chiffre, combien ils sont, 200 000 étudient, je crois pas qu'il y a plus que cela, d'accord, on va dire que 200 000, hein?
Ouais, je pense un peu plus.
Voilà, allez, tu veux 300 000, pas de problème. 300 000 qui étudient sur combien? Sur 15 millions de juifs, combien ça fait? En pourcentage? 2%. C'est ça? 2%. Maintenant, si le reste était pratiquant, travail mais pratique, fait ses 2 heures de Torah par jour, ça va, tu as raison. Mais ce n'est pas le cas. La majorité, je dis 80%, je vais être moins, je vais dire 50% s'assimile.
Ouais, ils se sacrifient pour sauver tout le peuple entier.
Bien sûr, bien sûr. Et les grands de Torah.
C'est la femme qui prend tout.
Écoute, les grands de Torah, leur mission numéro 1, sauver le peuple juif. Et nous, on sait que le peuple juif, son destin dépend du niveau spirituel du peuple. Maintenant, on est ensemble. On est ensemble. Tous. Quand c'est une seule... Yaakov Nachalato, Chevel Nachalato, Yaakov, la corde de son héritage. On est comme une corde. Et les grands sédéquim en haut et les grands rachaïm en bas. Un rachat fait un péché, il baisse le niveau de tout le monde. Un sadique fait une grande mitzvah, il fait monter le niveau. On est ensemble sur la même corde. On est unis. On a un arevout, une responsabilité commune. Donc, les grands Torah doivent faire en tout ce qui est possible pour qu'il y ait plus de mérite au peuple d'Israël. C'est évident. Maintenant, on ne dit pas à tout le monde, toutes les femmes, allez travailler pour que votre mari étudie. C'est une minorité du peuple juif, c'est les commandos. D'accord? Et celui qui peut rentrer là-dedans, c'est certain que c'est excellent et c'est très bien. Ce n'est pas normal comme situation. Mais on n'est pas en situation normale, en situation d'exil. On sort d'une Shoah. Une Shoah physique, une Shoah spirituelle. Tu comprends que lorsque l'État d'Israël a été créé, il y avait ici 200 familles religieuses. 200. C'est rien. Et l'État a tout fait. Ben Gurion a dit, dans 20 ans, il n'y aura pas un seul religieux dans ce pays. Ben Gurion. Il s'est planté, pas au Hachem. Parce que les enfants, d'abord, Razonich a dit lui-même. Razonich est décédé en 1954. Il a dit, on va gagner. Parce qu'on fait plus d'enfants que les non-religieux. C'est quoi la moyenne de natalité dans le monde orthodoxe en Israël? 7 enfants. 7,2. C'était comme ça il y a 10 ans, je ne pense pas que ça a tellement changé. 7,2 enfants. Mais on fait un petit calcul. Sur 20 ans, de 20 à 40 ans environ, une femme orthodoxe ici, elle amène 7 enfants. Ok, après ses enfants, à elle, les statistiques vont aussi faire 7 enfants. C'est 7 fois 7, 49. On arrondit aussi un petit virgule 2, 50. Après 40 ans, il y a 50 enfants qui sont nés. Après 60 ans, il faut faire x 7. Comment ça fait? 350. Après 80 ans, x 7. 350 x 7, 2450. On a arrondi à 2500. 80 ans. Après un siècle, tu as 2500 x 7, 17 500. On a arrondi à 18 000. Après un siècle, tu as 18 000 descendants. Après 120 ans, tu as combien? 18 000 fois 7? Non, dis-moi le chiffre. 70, 56, 70, 56, ça fait 126 000. Après 120 ans. Après 140 ans, 800 000. 800 000, c'est Jérusalem aujourd'hui. Chaque couple religieux en Israël, il a en moyenne, après 140 ans, 800 000 descendants. Donc ici, c'est tout le pays d'Israël. Donc ça va très vite. Alors que la moyenne chez les non-religieux, c'est, je crois que c'est même pas deux enfants. Pourquoi je suis arrivé à tout cela? Parce que j'ai expliqué que les grands d'Israël, donc au début de l'État, il y avait une situation de Shoah physique et spirituelle. Il fallait remonter les mérites du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on y arrive, au Hashem, mais grâce à sa Machach, il arrive. Donc pour cela, on vit dans une situation qui est anormale. C'est comme quelqu'un qui va sous l'eau. Il peut respirer normal. Il a mis un snorkel, un tuba, et comme ça, d'accord. On est en situation sous l'eau, on est en exil. Il y a un truc très très intéressant dans le corps. Si quelqu'un, par exemple, les veines de ses jambes sont sectionnées, alors le corps va faire en sorte d'utiliser les petites veines, qui ne sont pas du tout leur fonction, pour faire passer le sang vers le bas du pied. C'est des situations de crise où le fonctionnement change. Le peuple d'Israël en exil, il a dû prendre un fonctionnement anormal pour que le peuple d'Israël puisse survivre. Ok? Alors on vient à ton sujet. Comment choisir maintenant quoi? Alors, il faut savoir que l'essentiel, c'est donc moi-même. Moi, c'est mon Olam Haba. Et le peuple d'Israël. C'est-à-dire plus de Torah, plus de sainteté, plus de proximité de Dieu, etc. Dans cette mesure, je dois choisir un métier qui est compatible avec cela. Si c'est un métier où je dois mentir, ça ne va pas. C'est un métier où je dois faire Hillel Shabbat, ça ne va pas. C'est un métier où il y a des hommes et des femmes, et puis très souvent, il y a des grands malheurs qui arrivent comme ça. D'accord? Combien on me raconte d'histoires au travail? Un homme et une femme sont commencé à parler, machin, ils ont fini au lit. D'accord? Alors il y en a même qui ont commencé ici à Jérusalem, ils ont mis hommes séparés, femmes séparées. Mais à la cafette, c'est ensemble. Et là-bas, il y a eu qui sont connus et qui ont fini au lit aussi ensemble. Ça veut bien séparer, faire attention. Donc quelqu'un qui choisit un métier, de prendre un métier qui correspond à la Torah, vu que le métier c'est accessoire, l'argent que tu dois recevoir, tu recevras de toute façon. C'est marqué que tous les Rosh Hashanah, Dieu fixe exactement combien d'argent tu vas recevoir. Tu peux monter et descendre, ça restera la même chose. Alors à quoi ça sert d'avoir des métiers grands, tout ça? Malhonnête. Tu es en train maintenant de bousiller ton être pour de l'argent. Ça soit la plus tordue qu'il puisse y avoir. Donc on choisit un métier qui est compatible avec la Torah. C'est ça le premier argument. Ensuite, on étudie la Torah, et quand on voit qu'on ne peut plus étudier, parce que ou il y a des besoins de parnassa, de nourriture, etc., ou parce qu'on ne tient pas le coup, pas tout le monde peut étudier sans cesse toute la journée, ok, on choisira un métier qui nous plaît, et voilà. C'est un problème là-dedans, dans ce que j'ai répondu. Ah, tu parles maintenant ça. Quel mouvement?
Alors, comment on sait,
Tu prends un mouvement orthodoxe, peu importe le mouvement que c'est, que c'est orthodoxe, tout ce qui n'est pas orthodoxe, il y a déjà du faux. Parce qu'il faut suivre les grands de Torah. D'accord? Okay. Donc tu choisis un mouvement orthodoxe, celui qui te plaît. C'est tout. Terminé. Oui.
Comment on peut expliquer que les tzadikim, dans l'histoire, nous racontent énormément, ont travaillé?
C'était à l'époque où on ne vivait pas en situation. Prends le Maroc, il y a trois siècles. Rabbi Hamenatar était bijoutier. Ah, et voilà, puis il finissait à 10h du matin, il finissait son travail, il partait étudier la Torah. C'était un des grands de Torah. Mais au Maroc, tout le monde était pratiquant. Ça n'existait pas un Mechal El Shabbat. Ça n'existait pas un truc pareil. Tout le monde étudie la Torah. Alors quand c'est comme ça, alors c'est très bien, ça c'est le mieux, ça c'est le top. Un travail accessoire, essentiel Torah, mais tu as un travail. Mais quand j'ai expliqué maintenant, le peuple d'Israël, la majorité s'assimile, ça veut dire devient goy, le peuple d'Israël est en danger. Tu ne peux pas te permettre de baisser le niveau spirituel du peuple en faisant qu'il y ait moins de Torah. Donc il faut une élite qui étudie la Torah toute la journée. Et eux contrebalancent le manque de spiritualité de la majorité du peuple. C'est simple à comprendre.
Et, bon. Comment elle a choisi cette élite? C'est-à-dire que des gens qui ne choisissent pas eux-mêmes, ou des gens qui ne choisissent même pas.
Les grands de Torah, ils ont poussé le monde orthodoxe à ce que leurs enfants aillent au cheder, apprennent la Torah, et à part une petite formation jusqu'à 12 ans, rôle de profane, Torah, 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 Torah et re-Torah.
Ils ne sont pas conscients qu'ils font cette mitzvah-là, c'est-à-dire que...
Bien sûr. Je pense pas. Les orthodoxes?
Non, pas tous, en tout cas. Il y en a plein que c'est parce que, voilà,
Non, bien sûr qu'ils sont. Bien sûr qu'ils sont conscients, bien sûr. Ils savent très bien que le monde tient sur eux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun.
Il y en a beaucoup qui ont des mauvaises méthodes pour autant.
Il y a de je ne dis pas que le monde orthodoxe est parfait. Il est plein de problèmes. Mais si tu fais une étude comparative entre eux et le monde non religieux, ben, il n'y a pas photo. Je ne dis pas qu'on est parfait. Mais en tout cas, les grands torrents essaient de créer une société qui est quand même la société la plus réussie au monde. Quand même. C'est quand même bien. Et c'est clair, je te dis, c'est certain. Les Bochoy et Shivot, d'accord, ils étudient jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi? Ils comprennent que le monde tient sur eux. C'est très clair. D'ailleurs, on leur redit ça sans cesse.
C'est pas pareil. Dès que tu as une femme et des enfants, tu dois assumer une situation...
Ouais.
Je dis pas...
Après, tu dis, le jour maintenant, le type, quand il se marie, effectivement, il y a une responsabilité. Alors, soit la femme, elle va trouver... il se marie avec une femme qui demande, moi, je veux que tu étudies, je travaille. Jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. Et là, tu sortiras travailler. Ou il va travailler tout de suite. Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait légitime. Pour ce dont on a besoin. Mais savoir que l'essentiel reste, le point de gravité reste l'étude de Torah, et le reste, c'est la malédiction qu'il faut aussi réaliser, hélas. Ça ne te va pas?
Non, si on étudie 6 heures par jour et on travaille 5 heures, bon, je vois pas vraiment en quoi ça serait...
Si quelqu'un peut étudier toute la journée, et il veut une femme, sa femme veut qu'il fasse ça, et elle va travailler, c'est clair que c'est mieux au niveau de la spiritualité pour le peuple d'Israël. Mais pas tout le monde est fait pour ça. Il y en a qui ne veulent pas que leur femme travaille, d'accord? Ils ne veulent pas au crochet de leur femme. C'est un problème de... Peu importe, chacun choisira ce qu'il veut, d'accord? Mais l'essentiel étant que ce qui est important dans la vie, c'est me réaliser en me rapprochant de Dieu le plus possible, et par cela aussi, je fais beaucoup de bien au peuple d'Israël. Ça, c'est l'essentiel. Et en fonction de cela, je devrais choisir quel métier, combien de temps, etc. Mais c'est tout à fait, on va dire, pour quelqu'un qui n'est pas né dans le monde orthodoxe, et il décide maintenant qu'il va travailler 5 heures, il va étudier 6 heures, c'est très très louable, c'est très très bien. Oui.
Et comment on sait pour nous actuellement si, pour plus tard, on doit continuer si on doit être avare en plein temps?
C'est trop tôt, c'est trop tôt pour choisir. Toi, tu vas d'abord... Et tu es la Torah. Tu vas grandir en Torah, puis tu arrives à l'âge où tu vas te marier, tu verras. Pour toi, ça sera impossible de quitter le pupitre et d'étudier. Je ne peux pas sans étudier. Ou bien non, j'attends pouvoir me marier, pouvoir arrêter d'étudier, j'en peux plus. D'accord? Ou, ce qu'on fait d'habitude, le cas le plus courant, la femme, elle accepte que pendant quelques années, tu vas étudier, et tu te mets une année, 2 ans, 3 ans. Au bout d'un moment, ou bien tu t'arrêtes, ou on continue et tout le monde est content. C'est très rare que quelqu'un... à l'âge de 20 ans ou 23 ans dans le monde orthodoxe, il se marie, il sait ce qu'il fera 10 ans, 20 ans plus tard. Il commence comme ça, et puis après, Dieu aide. Oui.
Mais on a une histoire qui est rapportée sur justement l'état d'Israël à l'époque, il y avait sous la monarchie avec Christian Améler.
Ouais.
On explique qu'il avait instauré une loi qui n'était pas de base dans la Torah, que celui qui sortait du Beth Midrash mourait.
Ouais.
Et on explique justement, c'est une preuve encore plus qu'aujourd'hui, dans une situation de l'exil, il faut étudier toute la journée.
Parce que... Je ne sais pas si c'est écrit là-bas qu'il sortait et personne ne travaillait.
Non, il étudiait tout constamment d'ailleurs.
Non, je ne pense pas.
Comment il faisait ça? Alors, comment ça se passait? On explique que c'est lui qui se venait à tous les besoins,
ouais,
du peuple, ouais, et que le peuple devait étudier, que lui aussi étudiait. D'ailleurs, l'histoire qui rapportait, c'est qu'une fois,
regarde, ça c'est.
Ils sont tous morts.
Qu'est-ce qu'il y a aurait dû être Mashiach? Quand Macha reviendra, c'est vrai que si tout le monde étudie la Torah...
C'est pour la plus forte raison qu'aujourd'hui, comme on est dans l'exil, justement, qu'on ne va pas se laisser avoir par le Yitzhara, nous dire « Ah, il faut travailler !»
Je suis d'accord.
Si lui, déjà à son époque, qui était des doléadors et qui se dit toute la journée, avec nous qui ne sommes pas, on devrait justement encore plus donner du temps à la Torah pour s'élever.
Mais alors, Tachem, c'est vrai qu'il y a eu des cas dans l'histoire juive où le peuple d'Israël ne faisait que étudier, dans le désert. Mais il y avait la manne qui tombait tous les jours. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils allaient travailler dans les champs, il n'y avait pas de champs, c'était dans le désert. Tu dis à Torah, jour et nuit. Je reste en jeu de Hezkiyahu aussi. Ma chère viendra. Qu'est-ce qu'on va faire? Que Torah. Oui, Doron.
Si on dit qu'après 2-3 ans de mariage, si l'homme a des besoins, il doit aller travailler. De l'écoute, dans la Masserie de Bavakra, que l'argent il est Zubab et Rosh Hashanah.
Oui.
Donc, est-ce que d'ailleurs on peut dire que c'est juste pour nos apprendre qu'il ne sert à rien d'être malhonnête dans le travail, parce que de toutes les manières, on recevra notre argent pour notre travail. Ma question en soi, c'est pourquoi on dit que l'argent il est Zubab et Rosh Hashanah, alors qu'on voit qu'après 2-3 ans de mariage, un avocat, s'il doit aller travailler,
Oui.
Donc, pourquoi il doit aller travailler? C'est de toutes les manières.
La personne, elle voit que maintenant le frigo est vide et il n'a pas d'argent pour payer sa location. Ça veut dire que Dieu lui dit, mon cher ami, ferme ta gmara et va travailler. Et à Rosh Hashanah, on fixera combien tu auras l'année prochaine dans le travail. Mais s'il ne va pas travailler, il doit aller travailler. Il est poché, c'est un pêcheur, ça veut dire. Il y a des gens qui essayent, tu tires, et tu attends que l'argent tombe du ciel. Il ne tombe pas du ciel. Dieu te dit, sors. C'est évident. Oui.
Mais justement, est-ce qu'on pourrait se poser la question de dire que si Rav Shalom ferme la Gemara, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on étudie.
Non, il ne veut pas qu'il ait toute la journée. Les 3-4 heures de Gemara, ça, il veut de toute façon. Mais que tu ailles travailler maintenant.
Ça, est-ce qu'il n'aimerait pas plus qu'on étudie toute la journée?
Mais t'essayes, ça ne marche pas. Quelqu'un, il a étudié, voilà, 5 ans, il est à Avraire. Sa femme lui dit, mon cher ami, on a déjà 3-4 enfants, je travaille et tu vois qu'on ne s'en sort pas. On a des dettes, on voit qu'on ne va pas payer la location, on n'arrive pas à finir le mois. Chaque mois, le minus grandit. Halt, d'accord? En ce moment, ça veut dire que Dieu te dit, mon cher ami, je veux que tu ailles travailler. Mais pas que travailler. Tu fais un mi-temps. Ou un tiers, deux tiers. Oui.
Non. Qui étudie toute la journée.
Non, pas forcément. Si vraiment quelqu'un va travailler pour ce qui est vraiment nécessaire, alors, et le reste du temps il étudie bien, alors on considère que toute sa journée c'est comme s'il a étudié. Plus que quelqu'un qui est devant le pupitre et puis il rêvasse. Des questions, messieurs? Alors que Dieu nous aide, Rosh Hashanah. De toute façon, dans quelques jours, Mashiach revient, c'est fini. Il n'y aura que Torah, Torah et Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.